C'est en 1960 qu'un pasteur, puis un prêtre et un rabbin, inventent en France une écoute par téléphone non confessionnelle et apolitique, ainsi naît SOS Amitié. Un demi-siècle plus tard, l'association répond à plus de 700 000 appels par an. Des femmes, majoritairement, mais aussi des jeunes, beaucoup. Les raisons sont multiples. Solitude, dépression, deuil, rupture, chacun son histoire et chacun sa façon d'appeler SOS Amitié. Les jeunes utilisent plus facilement le chat ou la messagerie, alors que certains préfèrent le contact téléphonique. Dans tous les cas, ils trouveront une oreille pour écouter leurs angoisses. Daniel Berchard, président du centre SOS Amitié de Montpellier.
C'est une association qui a 50 ans d'existence pour la France et 40 ans d'existence pour Montpellier. Ce sont donc des associations qui sont généralement régionales et qui sont regroupées en une fédération nationale. Il y a au niveau du territoire national environ une cinquantaine de postes d'écoute. Et l'objectif essentiel de SOS Amitié, c'est une association donc reconnue d'utilité publique depuis 1967 et dont les objectifs sont la lutte contre l'isolement, la prévention du suicide, la création de liens grâce à la parole et à l'écoute. Cette écoute téléphonique, au départ, se fait bien sûr avec un certain nombre de conditions éthiques, à savoir confidentialité, anonymat extrêmement strict, etc.
Pas de présence d'opinion politique ou religieuse, quelle qu'elle soit.
C'est apolitique et areligieux.
Plus particulièrement, sur Montpellier, comment s'organise cette association ?
Alors, sur Montpellier, nous sommes une trentaine de bénévoles qui nous relayons au téléphone, dans un poste d'écoute qui est bien sûr confidentiel et anonyme, et nous nous relayons 24 heures sur 24 pour répondre aux appels qui viennent de toute la France, puisque là aussi, avec le système d'abonnement téléphonique illimité, avec le téléphone Internet, les gens appellent absolument de tous les coins de France, de Paris, de Nantes. On n'a plus du tout une vocation d'appel qui est typiquement et exclusivement régionale. Nous sommes généralement saturés par le nombre d'appels. Donc, quelqu'un va essayer d'appeler Paris, qui est très demandé, donc saturé. Ça sonne occupé, on va essayer d'appeler, je dis n'importe quoi, Grenoble. Grenoble sonne aussi occupé, ben on va appeler Montpellier. On est effectivement dans un système où on répond aux appels qui viennent pratiquement toute la France.
Justement, ces personnes vous appellent pour exprimer un mal-être, une solitude, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher finalement ?
J'ai envie de dire, ils viennent chercher un lien, ils viennent chercher du lien, ils viennent chercher aussi quelqu'un qui puisse les écouter. Parce que finalement, on est dans une société qui multiplie les moyens de communication, l'Internet, les téléphones portables, etc. Finalement, ça ne crée pas de lien véritable. On est dans un monde, voire Facebook, qui est quand même un petit peu virtuel. Et on a des fois des gens au téléphone qui nous disent « Ah, je suis content de pouvoir parler avec quelqu'un. Ça fait un mois et demi que je n'ai pas parlé avec quelqu'un, sauf la vendeuse du supermarché. » Donc il y a quand même des situations, je crois, de grande solitude. Et puis il y a des gens aussi qui vivent, pour des raisons différentes, maladies, ruptures, deuil, etc., des situations d'angoisse extrêmement fortes. Et parler, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, c'est un peu le slogan de SOS, permet là aussi de desserrer l'angoisse. L'objectif de cette écoute est justement de desserrer l'angoisse de la personne qui appelle, lui permettre aussi de clarifier sa situation et aussi de prendre du recul et de mieux analyser le réseau, le tissu relationnel dans lequel elle est parfois très, très empêtrée et très angoissée.
Alors, vous écoutez, est-ce qu'il vous arrive de conseiller également ?
En principe, nous devons éviter le conseil, parce qu'il faut que la personne arrive à prendre sa propre décision. On ne donnera pas de conseils, on évitera au maximum de donner des conseils, malgré parfois des demandes très, très fortes et très précises des personnes. On va davantage chercher à essayer peut-être de la questionner à ce qu'elle puisse effectivement déblayer un petit peu la situation sentimentale ou relationnelle dans laquelle elle est un petit peu empêtrée, prendre du recul, prendre de l'analyse, et ensuite, à partir de là, pouvoir elle-même mettre en place sa propre démarche. On insiste beaucoup là-dessus.
Quelque part, c'est un peu la démarche du psychologue aussi, du thérapeute en tout cas.
Nous ne sommes pas thérapeutes et nous nous affirmons clairement que nous ne voulons pas être thérapeutes, ce n'est pas notre rôle. Le thérapeute a un rôle très spécifique de suivi, de connaissance de la personne. Nous, On est dans le présent, on est dans les minutes ou les quarts d'heure que va durer cette écoute. Il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après. Donc c'est complètement différent. On est simplement dans une écoute et on essaye de desserrer l'angoisse de la personne afin qu'elle arrive à clarifier sa situation. C'est dit avec des mots simples, c'est parfois un petit peu moins simple à réaliser.
Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours, quand tant de drames nous oppressent, et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse.
Il arrive parfois que vous receviez des appels de personnes qui sont vraiment dépressives, à tendance même suicidaire.
Cette association est reconnue d'utilité publique depuis 1967, essentiellement pour sa lutte contre le suicide. L'origine de SOS Amitié, qui remonte à 1953, était d'abord de viser à éviter le suicide. Et nous avons effectivement l'essentiel de nos appelants sont des gens qui sont en situation de dépression plus ou moins importante Et parfois, nous avons des personnes qui sont suicidaires, voire suicidants. La différence que nous faisons entre les deux, c'est que la personne suicidaire a des, pour faire vite, diront des idées noires, hein, et envisage donc de disparaître, alors que le suicidant, pareil, je donne une autre image, c'est la personne qui a la corde au cou, qui appelle et qui dit « je saute et je meurs ».
Mais dans ce cas-là, ils appellent, c'est quand même un cri d'alerte, dernier espoir.
C'est un cri d'alerte, c'est le dernier espoir, c'est « je ne veux pas partir sans entendre une voix humaine », c'est « je suis à bout, quoi que vous me direz, je pars, je franchis le pas, je saute ». C'est des fois les dernières paroles, mais c'est là la grande frustration de l'écoute. On ne sait pas, quand la personne raccroche, que se passe-t-il ensuite. On essaye, on demande à la personne si elle veut une aide, si elle accepte une aide, si elle accepte de donner son adresse, si elle accepte qu'on lui envoie des secours.
Vous pouvez intervenir dans ce cas-là?
On peut intervenir avec l'accord de la personne. Si la personne nous dit « oui, finalement, je suis très mal, et puis j'ai réfléchi, j'ai pris plein de médicaments, mais je veux de l'aide », donc dans ce cas-là, on lui demande son nom, son adresse, et on envoie les secours.
L'écoute, première qualité requise, bien sûr, mais surtout la compréhension, une sorte de formation. Quels sont les critères demandés à ces personnes-là?
Alors,
qui répondent?
Déjà, les critères demandés, c'est une solide motivation. Déjà, parce que c'est quand même exigeant pour les bénévoles, puisqu'on demande un certain nombre d'heures d'écoute par mois. On demande également d'assurer des nuits, ce qui est toujours un petit peu compliqué, des week-ends, puisque nous souhaitons que cette écoute se fasse 24 heures sur 24. Donc, il faut quand même une équipe qui se renouvelle et qui se succède 365 jours par an, y compris dimanche et jours fériés, bien sûr, avec un certain nombre d'entretiens, y compris entretiens avec des psys. Et ensuite, il y a une formation de plusieurs mois dans laquelle on apprend, je dirais, un petit peu la méthode d'écoute SOS, bon, qui s'appuie sur des choses connues, Rogers en particulier, l'absence de jugement, l'empathie, effectivement, qu'on essaye de favoriser au maximum auprès de l'appelant. Et puis, après cette période de formation théorique, il y a une période d'apprentissage plus direct, c'est-à-dire d'apprentissage de l'écoute, où on est dans un premier temps présent pour l'écoute. Et puis, dans une deuxième partie de cet apprentissage, on est avec un écoutant, je dirais, chevronné, enfin, ayant de l'expérience, et en alternance, on prend un appel sur deux pour ensuite pouvoir en faire l'analyse avec l'écoutant chevronné. C'est tout à fait le système de l'apprentissage.
Hein. On peut dire que, d'une manière générale, vous êtes plutôt à la recherche de bénévoles motivés?
Alors, on est en permanence, j'insiste, en permanence à la recherche de bénévoles motivés, parce que une équipe, ça vit, ça grandit, ça se fatigue, ça meurt. En plus, notre procédure d'admission, la formation, la sélection d'abord, la formation ensuite, c'est long, il faut plusieurs mois. On a deux sessions de formation par an, une à l'automne, une au printemps, ce qui parfois aussi décourage les bénévoles ou certains bénévoles qui sont dans « je veux faire tout de suite ».
Ça permet de faire un premier tri aussi.
Ça permet de faire un premier tri, ça permet aussi de vérifier effectivement la motivation de la personne. Si la personne est prête à attendre quelques mois avant son entrée à l'écoute, parce que l'écoute c'est quand même quelque chose de très difficile. C'est un exercice solitaire, on est seul au poste. J'ai envie de dire, c'est un accueil de l'autre sans jugement, quel qu'il soit. Que l'autre comprenne qu'on entend sa souffrance, qu'on entend sa douleur, quand il y a souffrance et douleur, ce qui n'est quand même pas 100% des appels. On a des appels joyeux, on a des gens qui nous appellent pour nous annoncer une bonne nouvelle. Ça arrive aussi, on n'est pas toujours que dans la souffrance et dans le malheur. Il ne faut quand même pas voir SOS Amitié que le bras en écharpe et le cœur en bandoulière.
Demain, je prends une décision, j'ai décidé de me rapprocher d'SOS Amitié. Que dois-je faire ?
Il faut faire acte de candidature, soit par mail, soit par courrier. Généralement, c'est plus par mail. Donc, il suffit de s'adresser au mail de SOS Amitié Montpellier que l'on trouve sur tous nos dépliants ou sur le site de SOS Amitié. On fait sa demande par écrit. On sera convoqué ensuite à un premier entretien. On va vous expliquer un petit peu les attentes de SOS et les différentes démarches qu'il faudra accepter pour entrer à SOS, en particulier la formation et l'apprentissage que je définissais tout à l'heure.
SOS Amitié ne fonctionne qu'avec des bénévoles et les quelques maigres subventions publiques. Pour participer à l'association, rendez-vous sur le www.sos-amitié.org. Et si vous avez envie de parler, le centre de Montpellier vous répondra au 04 67 63 00 63.